Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir au Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, à l'occasion de cette soirée débat « Quand la forêt et les banlieues brûlent, quelle société inventer ?» Alors cette soirée est organisée en partenariat avec le Campus de la Transition, le CERAS, Centre d'Action et de Recherche, Centre de Recherche, Je regarde Marcel en me disant que je vais me tromper. C'est le Centre de Recherche et d'Action Sociale et la Maison Maguis. Donc à l'occasion de la parution du dernier petit manuel de la Grande Transition, la société écologique, normes et relations, donc paru fin août aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors cette soirée est l'un des temps forts de la deuxième session du diplôme universitaire humanisme et politique qui se déroule en ce moment au Centre Sèvres. Et ce diplôme universitaire, permettez-moi de vous en dire quelques mots, est destiné à toute personne qui désire fonder ou refonder son engagement social et politique au service du bien commun. Alors c'est une formation qui se déroule sur 4 sessions de 3 jours dans chacun des lieux partenaires de cette formation. Donc nous commençons à Cluny à l'occasion de l'Université d'automne d'esprit civique. Nous poursuivons donc au Centre Sèvres en ce moment, puis fin janvier à l'Université catholique de Lille, et enfin donc le parcours de formation se termine au Campus de la Transition fin mars, début avril. Alors un certain nombre d'étudiants donc de ce diplôme universitaire sont présents dans la salle et peut-être même quelques alumni, puisque c'est la troisième promotion donc de ce diplôme universitaire. Alors dans le contexte de ce diplôme universitaire, je remercie très chaleureusement Cécile Renoir, donc cofondatrice du Campus de la Transition, ainsi que ses co-auteurs Rémi Beau, Christelle Cournil, Katia Martin-Chenu, Camilla Peruzzo et Lucille Schmitt et Jean-Philippe Pierron qui n'a pas pu être présent ce soir. Et je les remercie donc toutes et tous de nous permettre de réfléchir et de débattre ce soir sur un sujet important. À partir du constat que les bouleversements environnementaux frappent de façon particulièrement aiguë des groupes sociaux défavorisés et accroissent ainsi les injustices environnementales, quels seraient les leviers et stratégies de transformation visant l'émergence d'une société plus juste et respectueuse des limites planétaires. Alors Cécile va donc animer la soirée avec ses co-auteurs et Marcel Raymond, donc directeur du CERAS, nous aidera à mettre finalement le débat en perspective à la lumière d'exemples concrets donc issus de son expérience avec différents partenaires. Alors pendant la présentation, je crois qu'il y a la possibilité d'écrire ces questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Cécile, comment est-ce que tu vois les choses?
On se disait que ça pourrait être bien que vous mettiez vos questions, si vous en avez au fur et à mesure, sur des papiers, ce qui permet à ceux ou celles qui aiment moins poser les questions par oral de pouvoir en poser par écrit. Et puis dans la deuxième partie de la soirée, nous pourrions donc avoir un temps d'échange à partir de ces questions et puis un temps d'échange aussi en direct. Voilà.
Il y aura également un micro qui circulera dans la salle. Voilà, donc à toutes et tous, je vous souhaite une très bonne soirée débat. Et Cécile, je te donne la parole.
Merci beaucoup Clarisse et bonsoir à toutes et tous. Alors ben, nous sommes avec l'équipe des co-auteurs, enfin d'une bonne partie des co-auteurs du petit manuel « La société écologique, normes et relations ». Nous sommes très heureux d'avoir cette occasion de vous rendre compte des travaux que nous avons menés. Et puis bah, des enjeux que nous voyons à partir de ce travail collectif interdisciplinaire, donc qui a réuni des philosophes, des juristes et des politistes pour essayer donc de réfléchir à cette question des contours d'une société dans laquelle il fait bon vivre, que nous voudrions voir advenir. Et Rémi reprendra les choses tout à l'heure, mais peu le fil conducteur de cet ouvrage et de nos réflexions depuis plus de 3 ans, parce que ça fait même presque 4 ans, je pense qu'on était attelés à la rédaction de ce petit ouvrage, c'est la question de la qualité des relations finalement qui est un peu le fil conducteur et qui va être le fil conducteur de la soirée. Alors pour le programme, je vais dire un mot du campus de la transition et du cadre dans lequel le petit manuel a été écrit. Puis ensuite, Rémi présentera la trame d'ensemble du petit manuel. Ensuite, Katia et Camilla évoqueront des enjeux juridiques et Lucille nous fera part d'enjeux politiques. Voilà. Et ensuite, Marcel nous fait la gentillesse de faire un écho aux propos. Et puis l'idée, c'est qu'on ait vraiment un bon temps d'échange. Donc on va essayer, même si on est tous pleins de notre sujet, si on peut dire, on va essayer de tenir les temps et donc de parler assez courtement. Et puis on espère de vous donner envie de lire le petit manuel et puis surtout d'avoir de continuer les échanges. Alors, on avait une belle photo de Clarisse, c'est un peu tard, pardon, voilà. Alors, pour un petit mot du campus, alors vous voyez, alors on a aussi des personnes en ligne que je salue, donc ils ne voient pas, je crois, le diaporama. Alors là, on a une belle diapositive synthétique sur ce qu'est le campus de la transition. Alors nous avons reformulé il y a quelques mois la raison d'être, la mission du campus et l'ambition. Donc la raison d'être ou la mission est de viser à former pour transformer l'enseignement supérieur et les responsables d'aujourd'hui et de demain en vue d'une transition écologique et solidaire. Et cela, donc vous voyez, c'est une mission assez exorbitante, mais disons que l'idée, c'est d'avoir ce souci de transformer les cursus dans l'enseignement supérieur, de réfléchir aux pédagogies qui sont adaptées et de le faire en accompagnant des acteurs du monde de l'enseignement supérieur, mais aussi des professionnels qui peuvent être dans des entreprises, dans des associations, dans des collectivités territoriales, et en essayant d'aider à déployer donc ces compétences transverses indispensables pour agir à la hauteur des enjeux. Et je vais en redire un mot, et puis tout ça se fait à partir d'un ancrage en Seine-et-Marne, dans un lieu qu'on a essayé de transformer en écolieu, c'est-à-dire avec un lieu d'expérimentation d'une vie sobre et solidaire. Alors il y en a plusieurs parmi nous qui vivent au campus ou qui travaillent ou qui ont vécu ou qui viennent régulièrement. Voilà, et on essaye donc de relier ces aspects de formation, de recherche-action et d'expérimentation. Et tout ça, on le fait à partir aussi d'une trame qui est un peu un cadre de réflexion et qui peut orienter aussi nos actions très concrètes, qui est le cadre que nous avons construit en réfléchissant avec un certain nombre d'enseignants-chercheurs au départ, et notamment, je salue Christian Koenig qui est dans la salle, et puis avec Rémi et Christophe Goupil, tous les quatre, nous avions coordonné l'écriture du manuel de la grande transition, qui était au départ une demande de la ministre de l'Enseignement supérieur, que nous avions rencontrée en juin 2019, et qui nous avait demandé de travailler à l'élaboration d'un socle de commun de connaissances et compétences pour la transition. Et du coup, nous avons réuni à peu près 70 enseignants-chercheurs, quelques étudiants, doctorants, notamment plusieurs très engagés dans le mouvement pour un réveil écologique, et puis quelques praticiens pour nous aider justement à développer une réflexion inter- et même transdisciplinaire qui se décline à partir de 6 portes complémentaires. Et ces 6 portes, on les retrouve donc à la fois dans le manuel de la grande transition et puis donc dans une série, une collection de petits manuels. Et notre petit manuel, la société écologique, normes et relations, que vous voyez là sur la diapositive, est le 8e d'une série de 12 petits manuels. Donc il y en a encore 4 à paraître. Alors je dis juste un mot des 6 portes du manuel de la grande transition, donc qui sont une façon de nous aider à réfléchir à partir de ce qu'on appelait des portes, ou on pourrait dire des axes de questionnement complémentaires. Vous voyez, on a utilisé des mots grecs, ceux qu'on retrouve dans les termes économie et écologie, oikos, nomos, logos, et puis nous avons rajouté ethos, praxis et dynamis. C'était par souci de mnémotechnique, et puis parce que ces mots sont assez évocateurs, dans notre tradition, d'un certain nombre d'enjeux. Donc, oikos, c'est le diagnostic, on pourrait dire, puisque c'est le titre qu'on a donné à cette soirée, quand les banlieues et la forêt brûlent, peut dire, ben, mémoire là douloureuse de, des émeutes de cet été, de fin juin, début juillet, après la mort de Naël. Je relisais hier des chiffres comme quoi, ben, je crois que c'est 555 communes qui ont été touchées par des dégradations très fortes pour un niveau de violence de la part de beaucoup de jeunes. Et ce qui dit quelque chose d'une société de plus en plus polarisée, explosive, marquée par des inégalités sociales et territoriales, et notamment une ségrégation scolaire. Et effectivement, des sociologues qui essayent d'analyser un peu le profil de ceux qui ont été très impliqués. Voilà, donc ça, c'est dans le diagnostic, la porte Oikos, c'est se dire, ben voilà, ce qui se passe du côté social en France. Et puis, on pourrait dire, là, sur la question de la forêt qui brûle, du point de vue environnemental, ben là aussi, prenez en Europe, en 2022, les feux de forêt ont eu lieu sur 785 000 hectares, émettant 9 mégatonnes de CO2. Bon, c'est toujours compliqué d'avoir des ordres de grandeur. Et puis, on a 18 millions d'hectares de forêts brûlées pendant l'été 2023 au Canada. Donc là, je pense qu'on n'arrive même pas à se représenter exactement ce que ça signifie. Et puis, déjà plus de 17% de la forêt amazonienne qui a disparu, essentiellement pour de l'élevage de bétail et puis d'expansion agricole. Voilà, ben c'est juste quelques chiffres, mais c'est pour vous dire dans cette porte Oikos, cette idée d'avoir un diagnostic posé. Alors voilà, en essayant de s'abreuver aux sources les plus fiables possibles pour prendre la mesure des enjeux. Ce qui amène ensuite à la porte Ethos, qui est une invitation à interroger ce qui se passe, justement, ce diagnostic d'un point de vue éthique, en posant la question du bien-vivre, des conditions du bien-vivre ensemble, la question de la justice ou de l'injustice des institutions et la responsabilité des acteurs. Cette interrogation éthique, elle nous amène ensuite à la troisième porte, qui est la porte Nomos, qui va occuper pas mal les juristes, puisque c'est la question des règles du jeu, des instruments de gouvernance, donc aussi des enjeux politiques, et se dire comment ce diagnostic et cette interrogation éthique nous invitent à promouvoir de nouvelles règles du jeu, des instruments de gouvernance revisités. Donc c'est ce dont on va beaucoup parler. Et puis, passe à la quatrième porte, qui est la porte Logos, disant, bien sûr, nous avons besoin de réfléchir à la transformation des normes et des règles du jeu, mais nous avons aussi besoin de narratifs, de récits collectifs qui nous embarquent tous ensemble de manière positive vers un futur, disons, sinon le futur probable, du moins le futur souhaitable, le futur possible que nous essayons de dessiner. Donc ça, c'est la porte Logos. La cinquième porte, ensuite, c'est la porte Praxis, celle de l'action, des échelles de l'action et de la complémentarité des acteurs. Je pense qu'on en parlera aussi beaucoup. Et enfin, la sixième porte, la porte Dynamis, correspond aux enjeux qu'on pourrait formuler en termes d'éco-psychologie ou d'éco-spiritualité, les moyens de se reconnecter à soi, aux autres, à la nature, voire à plus grand que soi. Voilà, donc ça, c'est ce cadre des six portes du manuel, qui ensuite, d'une certaine façon, sont revisités dans le cadre de tous les petits manuels que nous avons, donc qui ont pu être élaborés par des groupes d'enseignants-chercheurs avec des praticiens, donc depuis maintenant 4 ans. Donc voilà, je laisse tout de suite la parole à Rémi pour présenter donc la trame du petit manuel « La société écologique ».
Merci beaucoup, Cécile. Effectivement, je vais prendre le relais pour présenter de façon générale la structure de l'ouvrage, la façon dont nous nous sommes organisés pour cette écriture collective, parce que c'est pas toujours simple d'écrire à plusieurs mains, et qui plus est quand il s'agit de rassembler des disciplines différentes, de les faire se croiser et d'essayer de proposer un ouvrage cohérent qui propose un éclairage sur ces enjeux. Alors, effectivement, il faut aussi avoir en tête que c'est un ouvrage qui vient en complément du grand manuel de la transition. Donc, en fait, c'est une lecture qui est bien pensée comme en appui aussi sur ce grand manuel. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il faut lire non seulement celui-ci, mais aussi le grand manuel et l'ensemble des petits manuels qui accompagnent, qui s'inscrivent dans la collection. Plus sérieusement sur cet ouvrage-là, donc on est au croisement de la philosophie, du droit et des sciences politiques, et non seulement donc au croisement de ces disciplines, mais aussi avec une volonté vraiment d'associer une réflexion conceptuelle, théorique, mobiliser des savoirs produits par ces disciplines, mais tout en ayant un regard très attentif à ce qui se passe concrètement dans les transformations des institutions, dans les mouvements sociaux. De ce point de vue-là, notre petit groupe avait cet avantage d'être à la fois, d'avoir un ancrage universitaire fort, mais aussi bon nombre d'entre nous qui sommes soit mobilisés dans des associations, soit acteurs aussi de ce monde de ce monde politique. Lucille qui a une longue expérience hein, et un regard critique très informé de l'évolution de ces institutions et de la prise en compte de la question écologique au sein des institutions politiques. Et donc c'était à la fois un travail interdisciplinaire et puis un travail entre, disons, le monde académique et le monde de l'action. Et sur ce point, je voulais aussi rappeler, tu l'as un petit peu fait déjà, Cécile, mais le contexte dans lequel nous écrivions. Alors c'est vrai, quand je réfléchissais à ça, et je me tourne vers toi, Lucille, parce que tu soulignais le fait que cet ouvrage nous a pris quand même quelques temps dans sa rédaction, mais le contexte dans lequel on l'écrit, on commence à l'écrire, disons, en 2020, enfin, le grand manuel commence à être écrit en 2019, et puis le cœur, hein, c'est 2020, 2021, un petit peu de 2022, mais donc on vient d'assister à une séquence sociale et politique dont il faut quand même rappeler quelques faits marquants. Hein. La concomitance, si on veut tenir à la fois la question sociale et la question écologique, hein, et ce dialogue, la concomitance du mouvement des Gilets jaunes et des mobilisations de plus en plus fortes autour des questions climatiques, notamment les marches pour le climat, les réponses institutionnelles dont on pourra parler, grand débat, la Convention citoyenne sur le climat, avec un certain nombre de productions et un certain nombre aussi de frustrations quant à la mise en œuvre de ces mesures. La pandémie, bien sûr, contexte dans lequel on rédige. Et puis, au fond, le titre de la soirée indique que cette séquence se prolonge, cette idée de faire cet écho hein, entre ce qui s'est passé, ces soulèvements dans les banlieues et cette situation qui continue à s'aggraver du point de vue écologique à travers ces événements des forêts qui brûlent. Donc voilà le contexte dans lequel on écrit, et l'idée était de proposer un parcours à travers nos disciplines, en reprenant cette idée de parcours entre les six portes, pour essayer de donner un certain nombre de ressources critiques, théoriques, permettant de se forger un regard plus informé, un regard critique sur cette situation à la fois écologique et sociale. Il faut rappeler que le livre vise un lectorat plus large, mais il y a cette dimension de contribution possible à une formation dans un parcours, à la formation des étudiants et plus largement à la formation des citoyens pour penser ces enjeux écologiques. Donc cette idée de parcours, au fond, on a essayé de trouver un fil directeur. Cécile, tu l'as dit, ce fil directeur, ça a été celui des relations. La pensée écologique est une pensée des relations. Et on s'est dit, au fond, les relations, les approches relationnelles vont nous servir de guide pour essayer de comprendre comment ces approches relationnelles transforment la production des normes éthiques, juridiques et politiques. Et donc on a suivi ce fil des relations, c'est le sous-titre de la société écologique Normes et Relations, comment hein, cette approche relationnelle transforme la fabrique des normes. De ce point de vue-là, au fond, le parcours qu'on propose, et peut-être Cécile, tu peux passer voilà, à la diapositive suivante, qui reprend hein, la table et qui donne une idée un petit peu du contenu et de la structure générale de l'ouvrage. En fait, on est reparti de la description de ce que pourrait être une société écologique centrée sur l'attention aux relations, sur le soin, le souci que l'on pouvait porter à ces relations, et à la fois donc un souci à porter, disons, aux relations interhumaines, mais également aux relations à la nature ou à notre environnement, donc dépassant le cadre strict des relations interhumaines, en convoquant notamment tout un pan de la philosophie qui s'intéresse de près à ses relations à la nature, qui est ce qu'on appelle la philosophie de l'environnement ou les éthiques environnementales. Alors c'est ce qui fait office de point de départ, de porte d'entrée hein, dans notre parcours. Et on peut dire d'une certaine façon que ce choix s'imposait pas, dans la mesure où, encore une fois, au regard du contexte, on pouvait se dire que mettre en avant une société du soin, de la relation dans un contexte de violence sociale extrêmement fort, extrêmement forte, eh bien, cela pouvait paraître surprenant. Mais l'idée était de se dire, voilà le point de départ, un horizon possible qui reste ouvert et que nous pourrions essayer d'atteindre, et de penser des conditions de possibilité très concrètes qui nous mettraient sur la voie de cette transformation. Et alors c'est à partir de cela que, dans cette première partie, nous sommes posés les questions de la définition, de la façon dont une société du soin pourrait se définir à la fois d'un point de vue des transformations éthiques que cela pose dans différents secteurs, dans l'éthique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de nos relations à la nature, puis assez concrètement, comment nous pourrions transformer nos indicateurs, nos façons de compter, notamment à travers l'idée d'indices de capacité relationnelle sur lequel Cécile a beaucoup travaillé et qui peut servir d'outil pour penser cette société du soin. Et puis après, l'idée de ce parcours interdisciplinaire l'imposait, au fond, il s'agissait pas de s'en tenir à cette approche philosophique, à cette approche conceptuelle, mais de se demander comment très concrètement cela pouvait se traduire dans des normes juridiques et dans des transformations de nos institutions juridico-politiques. Et là, de ce point de vue-là, c'est Katia et Camilla qui vont compléter la description de ce parcours en montrant comment on peut déceler déjà dans les transformations du droit, dans la refonte d'un certain nombre de catégories juridiques classiques, le sujet de droit, la notion de propriété, la notion de souveraineté, comment une approche relationnelle invite à transformer, à repenser ces catégories classiques. Et puis, Lucille complétera par cette approche centrée sur la transformation des institutions juridico-politiques. Donc je passe tout de suite la parole à Katia et Camilla qui vont s'organiser pour se passer la parole pour penser cette deuxième partie centrée, un peu plus centrée sur la question juridique.
Ça marche ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Tout comme d'autres disciplines, le droit est bousculé par la crise écologique. Nous sommes trois juristes parmi les auteurs de ces petits manuels et nous avons observé et tenter de décrire les mutations nécessaires au droit et celles qui sont en cours pour qu'ils puissent mieux répondre ou répondre de manière satisfaisante à cette crise. Parce que nous voyons celle-ci comme une opportunité pour le droit de se renouveler, voire de se réinventer. Les impacts de cette crise ne respectent pas de frontières et ne sont pas délimités dans le temps. Le droit, qu'il soit national ou international, et les institutions doivent ainsi être fondamentalement réorientés pour prendre effectivement en compte la protection de la planète et les exigences d'une transition socio-écologique. Pardon ?
Vous entendez ? C'est parce que j'avais...
Maintenant, il y a un seul qui fonctionne.
C'est bon.
C'est bon.
Bon,
mais pas grave. Vous avez entendu, quand même. Parfait. Donc, dans cette présentation de 10 minutes et à deux voix, nous avons choisi de vous parler rapidement des pistes qui semblent émerger de l'analyse des deux de ces catégories, la responsabilité et la personnalité juridique. Notamment parce que les relectures qui sont faites de telles catégories juridiques et leur mobilisation par les divers acteurs impliqués dans la transition alimentent toute une série d'actions qui traduisent bien ce que nous avons développé dans la troisième partie de l'ouvrage et que nous avons dénommé contestation par le droit. pour la responsabilité, il nous semble l'un des principaux instruments de réponse à la crise écologique. Nous avons analysé ces mutations en partant des limites du schéma classique de la responsabilité juridique. Le schéma classique est le suivant: dommage, fait générateur et lien de causalité. Si dans le schéma classique de la responsabilité juridique, les liens entre les faits et les dommages est établi par une causalité plutôt linéaire, elle ne l'est plus lorsqu'il s'agit des risques globaux. La causalité est désormais marquée par la complexité, les chaînes causales s'enchevêtrant dans la réalisation du dommage ou sa menace. Donc ces schémas classiques montrent ses limites. Ce schéma, il est également fondé sur l'amputation, notamment des faits du passé. La menace des risques globaux implique en effet un déplacement du curseur de la responsabilité pour protéger les générations futures et la communauté mondiale tout entière. Les droits tendent à s'ouvrir vers la prévention et l'anticipation. Nous analysons dans ces manuels les évolutions des responsabilités, et ici les pluriels s'imposent, des États, mais aussi des entreprises. Parce que si les États sont en première ligne, les entreprises jouent un rôle clé dans la transition écologique et sociale et doivent être responsabilisées à la hauteur du pouvoir qu'elles exercent. Nous évoquons d'une part donc les processus d'expansion de la responsabilité juridique des États, élargissement des comportements de l'administration pouvant être qualifiés de fautifs, mais aussi la montée en puissance des régimes de responsabilité sans faute et plus récemment une extension temporelle de la responsabilité de la puissance publique pour des actions ou omissions éloignées dans le temps. Et en ce qui concerne tant le passé que le futur, pour le passé, par exemple en matière de santé ou en matière environnementale, les situations où en temps de latence s'écoule entre les faits générateurs et la révélation des préjudices, à l'instar des essais nucléaires. Quant au futur, en faisant glisser la responsabilité administrative de la réparation vers la prévention, comme en attestent les contentieux climatiques. En matière climatique, un régime naissant de responsabilité pour risque global climatique est marqué par un passage d'une responsabilité fondée sur la faute à une responsabilité fondée sur les liens avec les risques globaux et la mobilisation de la due diligence, de la diligence due. Les passages de l'exigence d'un préjudice certain à un préjudice éventuel et les passages de la réparation à la conservation dans un souci de renforcer la prévention du risque des dommages futurs plutôt que de réparer les dommages passés. Quant aux entreprises, nous nous penchons sur les processus de durcissement de la responsabilité sociétale, la fameuse RSE, qui saisit par le droit, donc un processus de juridicisation, et par le juge, un processus de judiciarisation, contribue à transformer la chaîne des valeurs en chaîne des responsabilités. Une telle transformation se réalise notamment à travers deux processus. Celui de l'émergence et de l'expansion d'une obligation de transparence pesant sur les entreprises. La France a été pionnière en la matière. Elle a poussé l'Union européenne à imposer une telle obligation aux entreprises. Et l'autre processus, celui de l'émergence et de l'expansion en cours d'une obligation de vigilance, dont la loi française de 2017 sur les devoirs de vigilance des sociétés mères et donneuses d'ordre est un exemple emblématique. Et la discussion actuelle en cours, les négociations, on est en phase de trilogue d'une directive européenne sur les devoirs de vigilance. Donc nous sommes dans une phase charnière des négociations, tant au niveau européen et onusien, ça nous pouvons revenir lors des débats éventuellement, où la négociation des textes contraignants pourrait vraiment contribuer non seulement à un aplanissement du terrain des jeux des entreprises, mais une véritable régulation de la règle du jeu, et un rééquilibrage des règles du jeu. Je te passe la parole.
Merci beaucoup, Katia. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, moi, je vais me concentrer donc dans cette exploration des catégories juridiques classiques bousculées par les droits sur la question de la personnalité. Alors, et cela à travers notamment la reconnaissance de droits à la nature, qui est un phénomène récent, mais qui ne cesse d'interroger nos systèmes juridiques. Cette reconnaissance des droits à la nature se justifierait tant d'un point de vue axiologique, parce que la nature en elle-même aurait une valeur inhérente et mériterait par conséquent une protection autonome, mais elle se justifie aussi par une dimension pratique, c'est-à-dire que le recours à la fiction juridique de la personnalité permettrait de mieux protéger l'environnement. Alors, effectivement, nos cadres juridiques qui ont été fondés sur la summa divisio, donc sur la grande division, l'une des grandes divisions du droit, c'est la distinction entre le sujet et l'objet de droit. Le sujet de droit, qui peut être défini comme celui qui est assujetti à un ordre juridique qui lui confère une personnalité juridique, donc des droits et des obligations. Or, nos philosophies occidentales individualistes ont fait de la personne, ont attribué donc une personnalité juridique humaine ou morale seulement donc aux êtres humains et aux regroupements qu'il établit. En ce faisant, cette matrice de pensée a donc qualifié la nature comme étant une chose. Donc une chose non vivante, inerte, réduite à un simple objet de tutelle. La protection de la nature a alors été édifiée un droit à travers les intérêts humains. Cet anthropocentrisme a donc imprégné le droit de l'environnement. Et ces droits a institué des règles de protection de la nature, bien évidemment en fonction des intérêts humains, de son bien-être, de sa santé, avant d'attribuer de façon très tardive un certain statut à la nature par le détour de la notion de biodiversité. Certes, cette approche anthropocentrée qui a imprégné les droits a été, d'une certaine manière, relativisée par une certaine approche écocentrique, et on voit cela notamment dans un texte juridique qui a été adopté sur le plan international, la Charte mondiale de la nature de 1982. Donc un texte très novateur pour son époque, qui a reconnu pour la première fois que l'humanité fait partie, et je cite la charte, fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d'énergie des matières nutritives. Donc toute forme de vie est unique et mérite d'être respectée, quelle que soit son utilité pour l'homme. Donc là, c'est une véritable rupture que fait cette charte et qui va donc aussi permettre d'engager des nouvelles réflexions défendant cette subjectivation de la nature et transformant donc cette grande division des ordres qui sont bien établis dans les ordres juridiques. Donc on voit des ruptures dans les champs juridiques, des nouvelles réflexions qui sont qualifiées d'animisme juridique et qui vont aussi se fonder notamment sur des savoirs et des cosmologies autochtones. Et cela on va voir s'immiscer donc dans certains ordres juridiques et notamment dans les expériences constitutionnelles qu'on a assisté à la fin des années 2000 en Équateur et en Bolivie, que vous avez sans doute tous déjà entendu parler. On voit, après partir notamment de 2016, un autre aussi mouvement qui se dissocie de ces cosmologies autochtones pour gagner une nouvelle impulsion en termes de personnification de la nature. Donc, par exemple, on a vu que le juge, il s'est aussi saisi de ces mouvements, donc non seulement sur le plan constitutionnel, comme je citais tout à l'heure, ou sur le plan législatif, mais on voit aussi le juge reconnaître à des entités naturelles un statut juridique, donc une personnalité juridique. Par exemple, en Colombie, en 2016, les juges saisis d'une requête climatique portée par des jeunes a reconnu la personnalité juridique de l'Amazonie colombienne. Ce mouvement, vous le savez peut-être, gagne désormais l'Europe. Donc, on fait véritablement cette dissociation de ces cosmologies, de ces ontologies autochtones, puisque en septembre 2022, une lagune en Espagne a été reconnue comme un sujet de droit, donc par un instrument législatif, ce qui précède sans doute d'autres initiatives citoyennes, comme par exemple on voit en France le mouvement pour la reconnaissance par exemple de la personnalité juridique de la Loire ou encore de la Garonne, etc. Alors, ces différentes expériences de personnification qui sont menées dans le monde ont fait l'objet de nombreuses analyses qui ont permis de mettre en lumière tant l'origine de leur fondement historique, leur représentation sociologique, les intérêts juridico-politiques, mais aussi leur pertinence ou non sur le plan de l'effectivité du droit et de leur efficacité pour appréhender la crise écologique. Certains considèrent que ce sont des simples innovations juridiques, d'autres considèrent que ce sont des véritables leviers d'action. Alors, ces expériences de personnification de la nature concourent sans doute à des transformations plus ou moins poussées du droit et elles participent à changer sans doute une manière de faire société avec l'ensemble des acteurs humains, non humains et aussi avec d'autres ontologies. Alors, je passe donc la parole à Lucille.
Ça marche? Ouais, super. Alors, bon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, j'avais, pour ne pas être trop longue, j'avais envie de dire une chose, c'est que ce livre est ce qu'il est. Effectivement, comme disait Rémi, nous avons mis du temps à l'écrire parce que c'était un ouvrage collectif et que surtout, nous étions sans cesse rattrapés par d'autres événements écologiques. C'est-à-dire qu'il me semble essentiel de dire que la société écologique, c'est le début du titre, c'est une société en train d'advenir. Et c'est une société qui, depuis que le livre est paru, s'est encore transformée. Et il me semble intéressant dans ce livre de dire que je crois que nous avons eu de justes intuitions, que nous n'avons pas complètement développées, mais que nous pourrons développer à l'avenir parce que, je vais vous résumer les intuitions, puisque je suis qualifiée de politiste, ce qui est très chic. J'ai effectivement fait de la politique, j'ai une formation de haut fonctionnaire, je suis engagée, j'aime l'écriture. Donc, je me sens pas très politiste, mais je me sens passionnée par le lien entre la démocratie et l'écologie, et je dirais la politique qui, d'une certaine manière, va contre l'écologie aujourd'hui, c'est ce que nous ressentons. Et donc, dans ce livre, ce que nous disons, c'est que associer la politique et l'écologie, c'est associer d'abord la démocratie et l'écologie, mais en donnant à la question démocratique un contenu précis. C'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui, il y a sans cesse une bagarre sur qui est démocrate, qui a la légitimité démocratique, lorsqu'il s'agit de faire voter une politique publique, lorsqu'il s'agit de résister contre une politique publique. Et donc cette question de savoir ce qu'on entend par démocratie et par vie démocratique, c'est une chose essentielle que nous abordons dans le livre, avec l'idée que le problème qu'il existe en ce qui concerne l'histoire de l'écologie en France, dans les mouvements sociaux, c'est qu'au fond, les choses sont souvent venues davantage de la société que de l'État. C'est tout à fait avéré, les travaux de Serge Audier l'ont montré, et puis ça existe aussi à la fois dans l'écologie scientifique, dans ceux qui ont résisté, les lanceurs d'alerte, et puis je dirais dans les communautés ou dans les résistances territoriales. Donc nous disons très bien, me semble-t-il dans le livre, que au fond, la légitimité des institutions, elle est bousculée par l'irruption, la bourrasque écologique. Et donc comment fait-on pour faire en sorte d'avoir des institutions qui restent légitimes, qui sont nécessaires, qui sont des références, qui sont une stabilité, qui permettent de croire dans le contrat social? Et comment fait-on pour nourrir ce contrat social d'une pensée de la nature, comme vient de le dire Camilla, d'une relation aux êtres non humains, et aussi en y intégrant les enjeux de justice sociale, les enjeux de lutte contre les inégalités qui sont si puissantes, particulièrement dans notre pays? Ça pose une difficulté particulière en France parce que nous sommes un pays qui croit en l'État et on voit bien qu'aujourd'hui, nous le disons aussi dans le livre, la question écologique doit être envisagée à l'ensemble des échelles et qu'on peut dire que d'une certaine manière, elle se passe mieux dans les territoires, en tout cas dans certains territoires, ou à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale. Et donc la question de transformer l'échelle nationale, qui est l'enjeu de légitimité démocratique forte dans notre pays, elle est posée. Donc ça, nous posons la question. Et je dirais que sur les enjeux politiques, nous n'avons pas de certitude dans le livre. Nous avons des propositions. Nous rappelons ce qui a été fait depuis que nous avions commencé à l'écrire, effectivement, avec une actualité extrêmement chargée. Vous vous en rappelez, bon, ça fait 5 ans qu'il y a eu les Gilets jaunes. Comme on est un pays de célébration, on va fêter les 5 ans. Et on va se dire, peu de choses se sont finalement passées. Mais enfin, en tout cas, le mouvement des Gilets jaunes avait entraîné une série d'initiatives institutionnelles original de la part du président de la République, essayant de faire le lien justement entre institutions, démocratie et questions écologiques. Je rappelle qu'il y a eu le grand débat national, qui n'était pas seulement sur l'écologie, mais où on a été surpris de la place prise par l'écologie, notamment dans les contributions écrites du grand débat national. Et je rappelle qu'il y a eu ensuite la Convention citoyenne pour le climat, qui a ensuite donné lieu à une loi, la loi Climat et résilience, qui a été une loi de désappointement pour certains, trop contraignante pour d'autres, lorsqu'il s'agit par exemple du zéro artificialisation net ou de la question des zones à faible émission en ville. Donc on est dans une situation où au fond, lorsqu'on est la politiste du groupe, on se dit les choses sont particulièrement peu stabilisées. Mais on peut dire aussi, et ça a été rappelé tout à l'heure par Katia et Camilla, que sur le droit, les mêmes questions existent que sur l'aspect politique. C'est-à-dire que lorsque vous avez des procès climatiques, lorsque vous avez l'affaire du siècle, qui est une pétition signée par 2,3 millions de personnes, c'est-à-dire que c'est la pétition la plus signée en France de toute l'histoire des pétitions. Lorsqu'ensuite vous avez le tribunal administratif de Paris qui condamne l'État, vous avez des discussions sans fin entre hauts fonctionnaires pour savoir si ça a de l'importance ou pas. Parce que le sujet qui est posé, c'est l'importance symbolique, l'importance par rapport aux ONG, par rapport à la société, mais ensuite il y a le sujet des conséquences sur les politiques publiques. Est-ce que ça permet effectivement d'élever le niveau d'ambition des politiques publiques par rapport à ce qui avait été convenu à l'accord de Paris? C'est une question très ouverte. Et vous avez aussi une autre question, dans le plus long terme, qui est, est-ce qu'on peut indéfiniment faire des procès à l'État? Et est-ce que le premier procès marque, mais est-ce que le deuxième procès ne marque pas moins? Et que par ailleurs, le sujet n'est pas aussi davantage, je dirais, les bombes climatiques, la question du rôle des entreprises, comme ça a été rappelé notamment par Katia. Donc vous êtes dans des situations où juger de l'efficacité des moyens que vous utilisez est aujourd'hui, me semble-t-il, la grande question politique. C'est une question qui a été posée notamment sur les soulèvements de la terre. C'est une question qui est posée par ceux qui sont... agents publics aujourd'hui convaincus sur les enjeux écologiques, ils se posent la question de comment est-ce qu'ils peuvent faire, doivent-ils devenir lanceurs d'alerte, doivent-ils démissionner, doivent-ils être disciplinés. Donc ce sont des questions sans fin et qui renvoient ces questions politiques à des questions d'éthique personnelle et à la question de constituer des communautés écologiques efficaces. Donc je terminerai en disant qu'il me semble que ce petit livre nous pose de manière très forte la question de notre efficacité dans l'urgence, et je pense que c'est ça qui permet d'associer, de nous associer tous en termes d'interdisciplinarité et de convictions partagées.
Merci beaucoup Lucille, et merci à Rémi, Katia, Camilla. Maintenant je laisse la parole à Marcel, si tu es prêt pour une réaction, un écho après tout cela.
Voilà, bonjour. Je suis, j'ai d'abord très peu de temps, mais je veux dire, j'étais très intéressé par tout ce que vous avez dit. Ça fait écho à pas mal de choses. Alors moi, on m'a demandé d'être celui qui vient avec des exemples de terrain qui permettent de raccrocher ou de simplement, voilà. Donc je vous signale que je suis à Saint-Denis. Et en banlieue, et donc j'étais assez content de voir qu'à la fin on parle de justice sociale comme étant un des points qui légitime ou pas les institutions. Bon, il y a quelques années on avait fait ici une soirée sur les gilets jaunes, et c'était vraiment pas si simple que ça de gérer le débat avec des gilets jaunes, parce qu'il y a toute la question de la violence qui joue, et voilà. Et donc je veux simplement réagir, je pose pas trop de questions parce que je vois bien qu'il y en aura beaucoup dans la salle aussi. La question, une première question, c'est par rapport à la juridicisation ou la personnalité juridique. Je pourrais prendre sur la responsabilité des entreprises, mais bon, je peux pas faire tout. J'ai été récemment dans les régions entre Saint-Étienne et Lyon, dans les Monts du Forêt et le Mont du Pilat, où je faisais des conférences quasi toutes les semaines. On fait une conférence dans des petites communes, et une des personnes parlait qui était responsable des gestions de bois. Moi, il faut expliquer que la propriété privée, c'est pas nécessairement une propriété exclusive. Il faut que les gens puissent circuler dans le bois, mais c'est quand même quelque chose qui appartient, voilà. Et quelqu'un avait réagi en disant, oui, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Moi, depuis, je suis tout petit, en face de moi, il y a une forêt de, alors je sais plus si c'est des charmes ou si c'est des, et là, ils viennent des touches coupées. Et donc, la responsable de la gestion des forêts privées disait, ben oui, mais c'est normal qu'on coupe des arbres après 100 ans. La question de la personnalité juridique d'une forêt, d'un paysage. Alors, je travaille beaucoup avec les soulèvements de la terre sur la question de l'eau, sur la question du Rhône. J'avais une question un peu plus dans une des associations avec qui on travaille, c'est CFT Terre Solidaire, enfin la Fondation Terre Solidaire. On est en train de soutenir un projet autour du Rhône. Et il y a deux conceptions. Il y en a une qui est vraiment une conception communautaire, c'est-à-dire que l'identité, la personnalité du fleuve, elle est posée par l'ensemble des gens qui sont en interaction, donc les relations. Et puis une autre, elle est beaucoup plus, je dirais, institutionnelle du haut, mais aussi le Rhône, à quoi il sert, pourquoi est-ce qu'il vit et tout ça. Et j'aimerais bien voir, je suis pas convaincu qu'on puisse détacher la personnalité juridique de la cosmologie. Je veux dire, est-ce que il y a moyen de donner une personnalité juridique qui ne soit pas un truc, un artifice, si elle n'est pas soutenue par une cosmologie vraiment ancrée? Ayant vécu en Amérique latine et en Afrique, je vois bien ce que ça veut dire. On n'abat pas un arbre. Là, récemment, j'ai signé une pétition avec Greenpeace sur le fait que Total Energy et le projet Jacob étaient en train de déterrer des tombes ou les ramasser. Mais il y a il y a une cosmologie particulière par rapport aux tombes, mais qui n'est pas la même. Je veux dire, en Europe, on peut déménager peut-être un cimetière, il suffit de demander l'autorisation, de faire ça correctement. Enfin, voilà. Donc c'est cette question en relation. L'autre question, c'est une question qui revient très souvent sur la. Et puis bon, chaque fois que on parle d'écologie ou on parle de, surtout à Remy là, il parlait tout au début d'une société du soin, société de relations. J'entends beaucoup, dans l'Audate aussi, pour ceux qui connaissent les textes du pape, ce soin comme étant un des paradigmes de l'économie circulaire, du fait qu'on fasse attention, faire attention. Je voudrais savoir un peu comment vous réagissez par rapport à la question de la propriété privée. Je vois chez les plus jeunes, et entre autres chez les jeunes, ils disent ben, « nous on partage des voitures, on utilise, on loue, on est plus dans le mode de la location ». Un autre exemple, aussi toujours dans les monts du côté de Saint-Étienne, c'était sur des jeunes agricultrices qui reprennent qui ont repris des exploitations, qui disaient, ben voilà, moi quand j'ai repris l'exploitation de mes parents, premier enfant, j'ai eu 3 jours de congé de maternité parce qu'il fallait que je traite les vaches et tout ça. La deuxième fois, j'ai réussi à avoir 4 semaines parce que j'ai accepté que une autre agricultrice ou un autre agriculteur d'une communauté d'agriculteurs, j'ai accepté qu'elle traite mes vaches. C'est-à-dire, j'ai accepté de livrer ce que je possède à quelqu'un d'autre. Et on voit bien que l'écologie et la propriété privée sont en tension. Et je dis ça par rapport aux normes juridiques, parce que les normes juridiques, je suis pas juriste, mais je pense quand même que la question de la propriété, de l'habeas corpus, enfin, je m'appartiens, qu'est-ce qui m'appartient, c'est aussi une grande division entre le sujet et l'objet. S'il y a des objets, c'est parce qu'ils appartiennent à des sujets de droit. Voilà, et par rapport à la politique, enfin, je suis vraiment tout à fait d'accord. Ce que je sens, moi, dans mes différentes rencontres avec différents groupes, que ce soit des groupes de jeunes ou des groupes de personnes en difficulté, c'est le peu de confiance dans les institutions politiques, enfin dans les institutions, et en particulier, alors on revient au paradigme technocratique, en particulier, on est beaucoup avec des migrants, de voir combien les lois et les institutions sont dans un certain système de perversité qui font qu'ils arrivent à empêcher la confiance. Donc ça forme de l'informel. Je veux dire, la difficulté d'avoir accès aux droits pour les gens qui sont dans la rue, d'avoir accès à la santé, maintenant c'est l'urgence, enfin on connaît tout ça, font qu'à un moment donné, ben, les gens ils sont obligés de dire, bon tant pis, on va faire ça entre nous. Et donc on a dans nos quartiers, je parle ici à Saint-Denis ou ailleurs, ou dans d'autres, on a des systèmes qui marchent parfaitement hors droit et hors institution. Je veux dire, je suis malade, je prends la carte vitale de mon voisin. Si c'est pas possible, je vais voir mon copain qui vient du même pays, qui est médecin, et qui lui peut me soigner, même s'il n'a pas le droit à la médecine. Voilà, et j'ai besoin d'un prêt, mais je ne passe pas par les banques, et ainsi de suite. Donc cet aspect de l'impact négatif, j'allais dire, l'incohérence d'un système qui est de plus en plus régulé, qui génère un système de plus en plus informel. Avec une résilience, bon, c'est tout ce qu'en Europe, ben, le pays le plus résilient, c'est l'Italie, où l'informel est le plus grand, où, simplement, voilà. Et donc, voilà, c'est la question de l'égalité dans les trois mots, l'égalité face à la loi, ça devient les sujets de loi, les sujets de droit sont de moins en moins nombreux, disons, simplement parce qu'on n'a même plus accès à certains droits. Bon, je vais arrêter, mais un exemple qui me revient de Belgique, puisque je suis belge, c'était par exemple, ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a plus le droit à toute une série de choses. Je veux dire, on a simplement le droit de mobilité qui est interdit. Mais il a fallu tout un travail sur le droit juridique, sur le droit pour que un prisonnier ait le droit de voter ou ait le droit de. Enfin, il y a toute une série de choses qu'il a le droit de faire, disons. Donc, le droit au travail ou pas, on va voir. Voilà. Mais je pense que c'est la même chose pour un migrant, pour un sans-papier. Est-ce qu'il a le droit d'avoir des enfants à l'école? Est-ce qu'il a le droit de. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la demande parce que.
Merci. déjà, avant de faire un petit vous proposer un petit exercice tous ensemble et puis d'avoir un temps de questions-réponses, peut-être que là, Camilla ou Katia voudraient dire quelque chose sur les enjeux de personnalité, le lien avec la cosmologie.
Alors, oui, absolument. Merci. Merci beaucoup pour ces points qui sont effectivement complexes en réalité. Et que comme nous sommes vraiment un processus, donc nous sommes en cours nous assistons à toutes ces transformations, à ces mouvements. Je sais pas, voilà, on n'a pas encore le recul pour en faire, en tirer vraiment les conséquences ou pour en faire un véritable bilan. Alors, ce qu'on constate par rapport donc justement à la personnification de la nature, donc cet exemple de espagnol, hein, de le fait qu'on a pu reconnaître cette lagune l'année dernière en la détachant finalement cette personnalité d'une cosmologie très propre de liens très forts que peuvent avoir à certains peuples, certaines communautés avec les entités naturelles. On voit que ces initiatives, elles émergent notamment dans des contextes avec des entités qui, donc c'est la lagune la plus polluée qui existe en Europe. Donc il y a vraiment ces liens avec très forts, avec comme le dernier recours en fait pour faire cette protection. Après, ce qui me paraît intéressant, et là je n'ai pas de certitude de réponse complètement tranchée, mais ce qui me paraît intéressant dans ce processus, c'est la possibilité de mobiliser cette fiction juridique finalement, parce qu'il s'agit, on peut tout faire finalement avec les droits, enfin on peut inventer des nouvelles catégories, mais c'est plutôt l'idée d'inviter, donc lorsqu'on reconnaît l'entité naturelle une personne, on l'invite à faire société, finalement. Donc, et c'est peut-être ça qui peut nous aider aussi à penser à des nouvelles gestions de ces entités naturelles, et ce qui peut aussi aider à créer des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits de cette relation avec ces entités naturelles. Et là, donc, et aussi pour faire, enfin, dans ces liens, dans ces approches relationnelles qu'on essaye de auxquelles on essaye de penser, je pense que ça fait sens. Donc, les droits aussi comme étant un moyen pour induire des nouveaux récits finalement pour notre société. Voilà, ce sont quelques éléments que j'imagine pouvant faire écho à vos observations, mais sans doute mes collègues auront aussi d'autres éléments.
Je le réouvre. Oui. Non, ça marche. Moi, je suis pas juriste, je fais du droit, surtout du droit administratif, en fait, mais je voulais dire qu'il y a un bon usage du droit, c'est-à-dire qu'on le sent bien à travers notre discussion, quand Marcel, vous parlez, au fond, d'un mauvais usage du droit, c'est-à-dire d'un mauvais usage de la loi, on le voit sur la discussion sur la loi migration, on voit, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions migratoires aussi, on voit bien que on peut faire des lois qui n'ont absolument rien à voir avec les situations réelles et qui au fond sont inapplicables, mais on s'aperçoit à cette occasion-là que certains législateurs s'en fichent qu'elles soient inapplicables et au fond instrumentalisent des sujets humains pour des jeux de rôle. Voilà. Donc ça me semble être un point important. Le droit vaut mieux que la fabrique de lois inadaptées et par ailleurs inhumaines. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on a parfois tendance à penser trop les questions d'écologie et de mise en œuvre de l'écologie de manière juridique sans faire le lien avec la question économique. On sait bien, vous disiez que la propriété, voilà, ça remet en cause la propriété, ça remet aussi en cause la hiérarchie, la manière de considérer l'argent. Ça remet en cause la façon dont on la dette, l'investissement. Donc il y a toute une série de notions économiques, de raisonnements classiques qu'il faut au fond questionner lorsqu'il s'agit de réaliser la transition écologique et donc articuler le droit avec la question économique, ça me semble être essentiel. Et par exemple, moi j'avais beaucoup regretté que la Convention citoyenne pour le climat raisonne, il y avait un comité légistique, voilà, tout était ultra juridique, mais il n'y avait pas d'hypothèse budgétaire. il n'y avait pas d'hypothèse d'investissement collectif, etc. Et il me semble que c'était dommage parce que je ne vois pas pourquoi les citoyens n'auraient pas la capacité, par exemple, à comprendre la discussion budgétaire qui se fait chaque année. La loi de finances, c'est un contrat social. Voilà. Donc il y a, moi je crois que ce qu'il faut, c'est, et on n'a pas d'économiste à la tribune, enfin aujourd'hui, mais il y en a peut-être beaucoup dans la salle, cette question d'apparier en fait le droit, l'économie et de savoir où est-ce qu'on investit, ça me semble être un point essentiel. Et puis sur la question de la justice sociale et ce que vous dites, je crois qu'il faut aussi, en 2018, Emmanuel Macron avait fait un discours en disant il faut trouver l'écologie populaire. Et à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon avait dit mais l'écologie populaire, c'est moi qui en ai parlé le premier. Moi je pense qu'on reste dans cette situation où au fond on cherche toujours ce qu'est cette écologie populaire. Et donc, peut-être qu'elle existe beaucoup dans l'informalité, mais on sait très bien que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas du tout un mouvement anti-écologique, c'était un mouvement qui disait l'écologie ne tombe pas du ciel. En fait, elle n'est pas faite par la loi, elle ne tombe pas du ciel, elle tombe pas seulement sous la forme d'un impôt supplémentaire. Donc il y a quelque chose autour, je crois que ce qu'on a commencé à discuter, c'est aussi la méthode. Au fond, comment est-ce qu'on fait pour que les choses soient réelles, et comment est-ce qu'on fait pour que ça monte du terrain, mais par ailleurs, ça ne néglige pas l'ensemble des échelles.
Oui, merci beaucoup pour ces réactions et qui nous donnent à penser aussi. Moi, je voulais réagir sur la question du soin et sur la question de cette articulation sur laquelle on insiste entre le soin et la solidarité. En fait, on l'a pas évoqué d'ailleurs, il me semble, une des notions fortes aussi qui traverse l'ouvrage, c'est la notion de solidarité étendue à la question écologique, à travers la notion de solidarité écologique. Et en fait, ça me semble absolument nécessaire d'insister sur cette organisation, en fait, collective du soin, entendu au sens large, hein, le soin y compris dans l'organisation collective de ce qu'on appelle aujourd'hui la subsistance. Il y a beaucoup de réflexions, hein, du point de vue de l'écologie de la subsistance, et qui tient à cette organisation un peu de systèmes de solidarité informels qui ont tourné d'ailleurs à plein durant la pandémie aussi. Et donc, de ce point de vue-là, qui ont montré leur capacité, enfin leur résilience de ce point de vue. Et ce que ça m'évoquait aussi, et c'est le fait qu'on insiste à la fin de l'ouvrage en guise d'ouverture, au fond, on essaie d'envisager différentes stratégies de transformation et comment elle pourrait s'articuler. On s'appuie de ce point de vue-là sur les travaux du sociologue Eric Olin Wright, et notamment avec cette idée, ce que vous décrivez là, il me semble, c'est plutôt des stratégies interstitielles qu'on peut voir s'articuler, qu'on pourrait envisager d'articuler avec des stratégies de rupture. Et peut-être manque, et c'est la question pour faire le lien avec ce que disait Lucille, bon, où sont les stratégies de symbiose ou de réforme, celles qui marchent avec l'État. Elles sont beaucoup plus absentes que les deux autres, et c'est un peu ce sur quoi s'arrête l'ouvrage.
Bonne transition pour peut-être 5 minutes d'exercice ensemble, si vous êtes d'accord. Alors, de vous mettre par binôme. Est-ce que chacun a un binôme? Si vous le voulez, évidemment, vous êtes très libre. Mais voilà, l'idée étant là qu'on a partagé pas mal de choses dans cette tribune, un peu loin de vous tous, et du coup d'essayer de nous mettre dans une perspective de dialogue ensemble pour la deuxième partie de la soirée. Voilà, donc l'idée c'est que vous puissiez vous mettre par deux et qu'on ait un tout petit temps de ce qu'on appelle de phrases ouvertes. Une des choses qu'on aime bien faire au campus en termes de pédagogie active ou d'écoute, ce qu'on appelle aussi l'écoute active, c'est-à-dire que pendant 1 minute et demie, chacun de vous, alors dans les binômes, on va dire qu'il y a A et B, et on va dire que A est la personne qui a les yeux les plus clairs, comme ça vous êtes obligés de vous regarder en face. Oui. Mais je propose qu'on le fasse aussi entre nous, là, voilà. Et donc, A parle en premier, et A a 1 minute 30 pour dire, là, de ce qui vient d'être échangé, peut-être une chose qui vous frappe par rapport à cette question de la société à inventer ensemble, une chose là qui vous a marqué ou une question que vous portez et peut-être que vous aimeriez ensuite adresser à l'ensemble de, voilà, non seulement à la table, mais à l'ensemble de l'auditoire. Voilà, donc chacun a 1 minute 30 pour dire quelque chose sans être interrompu. Et donc, si au bout de 30 secondes, vous n'avez plus rien à dire, eh bien, vous pouvez vous regarder, ou pas d'ailleurs, pendant la minute qui suit. Mais l'idée est de ne pas parler pour, voilà, faire l'expérience de ce que ça veut dire aussi d'être écouté sans être interrompu et de pouvoir développer une pensée, voilà, même balbutiante, enfin, pendant 1 minute 30, c'est quand même pas très long. Voilà, donc je vais mettre mon chronomètre. Et si tout le monde sait qui est, donc le A, celui, les yeux les plus clairs, commence. Et alors, pour marquer la fin de la minute 30, je lèverai le bras, voilà, et comme ça, tout le monde finit sa phrase, enfin, tous les A finissent leur phrase, et on passera ensuite à l'expression de B. Tout est clair? Oui. Voilà, donc vous avez 1 minute 30, donc A commence.
C'est moi, bon.
Alors, j'espère que ce petit temps par deux permet d'ouvrir. C'était un peu l'apéritif pour permettre aux uns aux autres de prendre la parole. Voilà, donc, Clarisse, t'as la gentillesse de faire circuler. Mais si, oui, non. Est-ce que qui ose poser la première question? Ah ben voilà.
Merci beaucoup pour tous ces éléments et merci aussi à Marcel d'avoir su raccrocher tout ça, j'allais dire, au terrain, quoi, aux réalités terrain. J'ai justement, ça a été évoqué par, il me semble que c'est Lucille qui l'a évoqué, le fait de faire des procès contre des États. Même, je me souviens d'un, j'ai lu ça dans un livre de Martha Torrechov, qui attaquait une société, un Péruvien, père de famille, qui attaquait un énergéticien allemand, qui a obtenu gain de cause, qui a obtenu des... Bon, donc tout ça, c'est des choses... Enfin, on regarde ça, on applaudit, on se dit c'est bien, justice est faite, mais on pourra pas faire ça éternellement. Enfin, quelque part, il y a un moment où ça va... Il y a le procès du siècle aussi en France, l'État qui est condamné. Oui, c'est très très bien, mais il y a rien qui change, rien qui bouge, et on va pas pouvoir éternellement condamner ou un pollueur ou condamner un État. Quelque part, à un moment donné, il va falloir légiférer, il va falloir poser des vraies règles pour stopper ça. C'est-à-dire que ce soit pas que la jurisprudence qui régisse cette question, qui est quand même une question cruciale pour l'humanité, mais que ce soit quand même qu'il y ait une responsabilité qui soit prise par les États. Par le biais du droit, bien évidemment. Et un droit appliqué.
On prend plusieurs questions?
Oui, je crois que nous sommes, comme Lucille a bien dit, plutôt à un stade encore symbolique ou de l'électrochoc. Mais il faudra légiférer, comme vous avez dit, mais pas seulement au niveau des États, je pense au niveau vraiment mondial. Et en matière, je pense, en matière de responsabilité des entreprises pour des violations des droits humains, hein, il y a vraiment un processus en cours depuis 2014. Mais on était assez négatif jusqu'à il y a jusqu'au mois dernier, hein, parce que ça fait 9 ans. Hein, que ça traîne, je crois que je peux dire ça. Mais je crois qu'on est dans un tournant, là. La session des négociations à l'ONU, c'était là il y a 2-3 semaines. Les échos hein, que j'ai eus, je n'y étais pas, mais on a discuté de ça aujourd'hui, même à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. on voit qu'il y a une démarche, quelque chose qui était inenvisageable en 2014, commence à prendre corps. Ce n'est pas une révolution, hein, il n'y a pas des obligations directes pour les entreprises, c'est toujours des obligations directes pour les États qui indirectement doivent légiférer. Mais vous voyez, c'est quand même un début. On est loin encore. Et le problème, c'est la temporalité que ça prend, hein, pour légiférer, comme vous dites, pour réguler. Et entre-temps, tous les dommages qui...
Ouais, ouais. Moi, il me semble qu'actuellement, il y a un danger très fort qui est que les procès climatiques, et notamment, il y a, comme vous le savez, il y a des procès retentissants qui ont eu lieu, par exemple, aux Pays-Bas, autour de l'ONG Urgenda, et l'État néerlandais a accepté d'élever le niveau d'ambition des politiques climatiques. Et aujourd'hui, est-ce que c'est de la bonne foi, de la mauvaise foi, je n'en sais rien, mais ce qu'on nous dit, c'est que s'il y a un parti agrarien, un parti agricole néerlandais réactionnaire, anti-européen qui a émergé, c'est à cause du fait qu'on a élevé le niveau d'ambition des politiques climatiques. Et on sait que pour les élections européennes de 2024, ça commence à être quand même largement débattu dans la presse, ce qu'on risque, c'est tout de même l'idée que la droite, l'extrême droite, dans une sorte d'alliance climato-sceptique, en fond, impose une pause sur le pacte vert. Donc on est dans une situation où à la fois il y a ce que dit Katia sur le fait qu'il y a une élévation du niveau d'ambition à l'échelle internationale qui est de bon augure, mais le sujet c'est comment le droit s'articule à la réalité politique et est-ce que nous ne devrions pas avoir un autre personnel politique ? En fait, il faut se poser cette question quand on parle des institutions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de personnes de... très engagés sur ces enjeux écologiques, entrepreneurs, étudiants, que sais-je, une sorte de société écologique qui se lève et qui dit « je vais résister à cette question de la pause » qui est quand même explicitement, y compris Emmanuel Macron l'a suggéré, alors que il avait été un des partisans actifs du pacte vert avec Ursula von der Leyen. Donc moi je pense qu'il y a un danger politique aujourd'hui très fort et je pense que nous devons, nous, essayer de nous mobiliser, je sais pas, par, enfin... peser dans ce débat et montrer que le droit est ultra important, ultra efficace, mais que le pacte vert européen doit prendre en compte les inégalités sociales d'une manière plus importante parce que, vous savez, l'expression de Green Deal, elle vient quand même des Grünen allemands et pour eux, c'était davantage articulé aux questions sociales que dans l'acception actuelle.
Merci. Une autre question ? Oui. Alors, Rémi ?
Du coup, bonjour, on m'entend, mais c'est bon. Bonjour à tous. Rémi, du coup, ancien eurorésident du campus de la transition en stage et ingénieur de formation. Là, du coup, ce soir, on parle d'instruments qui sont des instruments méta et qu'on essaie de faire atterrir pour qu'il y ait un impact réel sur la vie, quoi, et pour avoir des résultats au niveau écologique. On a parlé de la personnalisation d'entités naturelles comme les fleuves ou les forêts. Moi, je me suis beaucoup intéressé pendant mes études sur la question de la technique. Et en fait, le seul moyen qu'a l'être humain de médiatiser son rapport au monde, c'est à travers la technique, et donc les artefacts, les produits, les objets qu'on crée au quotidien. Et est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du droit, il y a des instruments, des innovations qui existent pour gérer autrement nos objets, nos produits, nos logements aussi. Par exemple, aujourd'hui, si on prend l'habitat partagé, toute la question du commun, en fait, il y a d'énormes zones grises, j'ai l'impression, c'est très compliqué d'envisager la propriété sous forme partagée. J'ai eu vent, voilà, en suivant de loin, d'initiatives comme Juriste Embarqué qui essaie de trouver des points d'innovation, des statuts différents, comme un jour on a inventé les skics. C'est pas tombé du ciel, enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des juristes qui pensent différents statuts pour prolonger la durée de vie des produits, pour penser des objets ou des entités partagées, parce que avant de protéger pour moi la forêt amazonienne ou des entités comme Garonne, voilà, moi je suis du Lot-et-Garonne, donc ce fleuve-là a une importance forte pour moi, est-ce que c'est pas déjà notre rapport aux objets quotidien qu'il faut pas changer? Voilà, en ce moment, moi j'ai complètement changé de vie, je vends des chaussures dans le Marais, et le gouvernement vient de mettre en place le bonus réparation pour essayer justement d'améliorer la durée de vie des produits. Est-ce qu'il n'y a pas des choses là aussi à créer justement pour dans une certaine forme d'animisme aussi, donner plus de beauté entre guillemets à l'objet, favoriser sa durée de vie. Et là aussi, ça a un impact sur le réel, quoi. Donc, est-ce que vous avez vent d'innovation dans ce domaine pour le court, au moyen, long terme?
Je crois que c'est sans doute il y a des incitations, donc c'est un peu ça que vous présentez en tant que politique, des incitations, des orientations de la puissance publique. Je pense, je connais pas, hein, enfin je pense que c'est une branche du droit assez spécialisée, enfin tout ce qui concerne déjà la consommation, les biens, etc. C'est pas tout à fait mon domaine de spécialité. Après, ce que je connais et que je trouve que c'est plutôt intéressant et qui va dans ce sens-là, c'est quelque chose qu'on a développé en termes de la responsabilité du producteur sur toute la chaîne et la durée de vie des produits. Donc ça, c'est quelque chose d'assez novateur et qui vient répondre justement à ce besoin de ne pas vraiment de la responsabilité du producteur par rapport à son produit. Donc ça, c'est, je pense que c'est, il y a. Donc sans doute, il y a des innovations juridiques en ce sens.
Moi, je m'inscris dans le DU, humanisme et politique. Et je poserai ma question sur les banlieues qui brûlent. Il me semble que, sauf peut-être Marcel, on les a peu évoquées. On a surtout parlé de la forêt qui brûle. Et donc ma question, c'est, en repensant au mouvement des Gilets jaunes, à la révolte des banlieues, en quoi ces innovations juridiques sur la responsabilité, sur la personnalité, permettraient-elles une société dans laquelle on aurait davantage confiance dans le droit et les institutions? Est-ce que c'est une question d'échelle territoriale? Est-ce que vous pouvez nous aider dans cette direction-là aussi, à voir en quoi une nouvelle société à inventer, avec cet horizon de solidarité, bien entendu, de proximité, passe par des innovations juridiques?
Il me semble, alors parce qu'on a un petit peu évoqué les questions d'économie, d'entreprise, mais pas tant que ça, enfin Katia, et puis toi, Lucille, et peut-être, alors j'ai pas de réponse, mais il me semble que dans les discussions actuelles autour de la croissance, de la décroissance, la question des modèles de société, finalement, quelle société inventer, la société de décroissance ne fait pas rêver beaucoup de gens. On pourrait dire malheureusement, mais du coup, cette invitation alors à réfléchir, Tim Jackson parlait de prospérité sans croissance, ou autre, on parle beaucoup de sobriété, et le pape comme Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse. Alors au campus, nous aimons rajouter le qualificatif solidaire, parce que c'est une manière peut-être de prendre en compte la question des modes de vie à transformer. Et c'est une question qu'on se pose beaucoup au campus, puisque nous essayons d'incarner concrètement dans nos modes de vie quelque chose d'une sobriété heureuse, de montrer que la sobriété peut aller de pair avec la convivialité, avec le bien-vivre. Mais le risque, c'est le faire dans l'enceinte d'un beau domaine. Comme disait l'un d'entre nous au début, je reprends souvent cette expression, il ne faut pas qu'on soit les bobos qui s'amusent au château. Et pour nous, mais c'est directement lié à la question que tu poses de l'articulation entre les enjeux écologiques et les questions sociales, c'est que nous sommes à 3 km de la ville haute de Montereau, ville dans laquelle il y a deux fois le taux de chômage national, beaucoup de fichiers S, une ville, une cité très multiculturelle, avec quand même une interrogation beaucoup plus sur les enjeux socio-économiques que sur la question écologique en tant que telle. Alors ça fait 3 ans qu'on accueille, alors c'est des petits séjours, des jeunes de la mission locale avec leurs éducateurs. Et ce qui nous frappe, c'est la façon dont ça permet le croisement des expériences, des vies, Voilà, peut-être une façon d'évoquer les enjeux, c'est la manière de faire se relier les mondes. Alors là, je réponds pas du tout à la question du droit là-dedans, mais il n'empêche que déjà, en fait, c'est quand même, il nous semble, la question d'une expérience et d'une expérience partagée qui peut nous aider à voir ce qui manque en termes de politique publique, en termes de certaines normes, ensuite de voir comment, dans ce qui s'essaye, dans tout ce réseau des écolieux, par exemple, qui, pour la plupart, ont vraiment l'intention d'être ouverts à une forme de diversité sociale, mais qui ont énormément de mal à le faire. Il y a eu une enquête l'année dernière sur qui sont les habitants des écolieux. Globalement, c'est des gens un peu comme vous et moi, j'allais dire très diplômés, de CSP+, plutôt, voilà, plutôt des blancs. Enfin, c'est et on voit bien comment ben, ceux qui essayent de tenter cette expérience, c'est parce qu'ils sont peut-être ils se sentent complices de modèles d'une société très injuste, de plus en plus polarisée. Ils se disent comment est-ce que je me mets moi-même dans la question. Et finalement, ce qui était aussi dans le cadre de nos réflexions, c'était comment on crée les conditions de sociétés plus inclusives en étant conscient que ce n'est pas si facile de relier les questions écologiques et sociales. Et ça, je pense aussi, c'est un des travaux qui sont menés au CERAS pour reprendre aussi l'appel du pape François à relier le cri de la terre et le cri des pauvres. Voilà, au campus, on se pose la question très régulièrement en se disant il faut pas qu'on soit là à cocher la case sociale. Il s'agit d'autre chose, mais justement, pour faire droit à un réel vivre ensemble, à cette capacité non seulement à relier les mondes, mais aussi à partager des éléments en commun, ben, ce n'est pas si facile de trouver les moyens, et les moyens et juridiques d'ailleurs, et politiques. Et derrière tout ça, c'est aussi une façon de se représenter le bien-vivre. Et trouver ensuite des peut-être des normes qui correspondent. Alors, je peux pas trop détailler, mais en ce moment au campus, on a plein d'enjeux juridiques parce que si on veut être dans les clous pour pouvoir accueillir des personnes, en fait, c'est très difficile d'être un peu fidèle à l'esprit dans lequel le projet est né. Et donc, enfin, je donne juste cet exemple-là parce qu'il me vient là sur la question des évolutions nécessaires du droit. Je pense qu'on a eu un droit social très protecteur de l'entreprise et qu'aujourd'hui, il est partiellement inadapté, en tout cas à pas mal d'expériences qui se créent et qui demandent justement de réinvestir le droit pour en faire justement un outil au service du bien vivre ensemble. Voilà, je ne vais pas donner de réponse, mais en tout cas, c'est des questions que nous nous posons. Et en nous disant qu'il y a vraiment un droit de... il y a 5 ans, quand on a démarré la vie au campus, on se disait finalement il y aurait un droit de la transition à créer, un peu comme... Alors, je ne suis pas spécialiste, mais on nous avait dit, par exemple, ATD Quart-Monde ou Emmaüs ont fait évoluer certaines règles du jeu pour pouvoir faire droit à la spécificité des enjeux dans les projets d'Emmaüs et d'ATD. Et donc, voilà, toute chose étant pas égale, il y a quand même quelque chose de cette inspiration-là pour pouvoir irriguer voilà, ce qui se cherche aujourd'hui dans pas mal de lieux, pour essayer de conjuguer justement les enjeux écologiques, économiques et sociaux.
Toute petite phrase, parce que je crois que si le droit, il peut être... Il est souvent un instrument d'oppression. Il peut être aussi un instrument d'émancipation. Et c'est ce que nous avons essayé d'identifier quelques pistes pour qu'il puisse être mobilisé et comme instrument d'émancipation.
Tu veux te dire quelque chose, Amy? Moi aussi. Vas-y.
Un mot rapidement. En fait, je pense que c'est une question... crucial. Et en fait, c'est vrai que le titre était aussi pour évoquer ce contexte que je rappelais dans lequel on travaillait, et c'est ce qui relève d'une volonté de penser et d'articuler les questions écologiques et les questions sociales. Et d'une certaine manière, dans le livre, on décrit ce qu'il s'est passé, les transformations existantes, et en fait, de fait, on peut dire que ce qui s'en est suivi en termes de réponse ne répondait pas à la question sociale. Quand on pense que la Convention sur le climat répond explicitement au moment des Gilets jaunes, on ne répond pas à la question sociale. Et donc, de ce point de vue-là, une bonne partie des évolutions marquent des avancées sur le plan du droit de l'environnement, des droits de la nature. Mais ce qu'on décrit dans l'ouvrage, ne répond pas à la question que vous posez précisément. C'est bien ça le problème. Quand Lucille, tu disais Emmanuel Macron veut qu'on invente l'écologie populaire. Et évidemment, il n'a rien fait pour inventer l'écologie populaire. Donc on décrète pas l'écologie populaire. C'est bien cette question. Ce qui se rapproche le plus, c'est effectivement ces enjeux de subsistance, ces organisations, mais qui à l'heure actuelle ne passent pas par la transformation du droit, qui sont plutôt dans, il me semble, dans les stratégies interstitielles. Et c'est un des enjeux majeurs de réussir à articuler ça. Aussi, alors là, je suis pas du tout spécialiste, mais par des transformations peut-être d'autres domaines du droit, peut-être dans le droit du travail, peut-être voilà, exactement. Mmh. Et ça, où on a moins creusé un petit peu sur quand même sur la partie droit économique dans le petit manuel. Mmh. Et si tu voulais.
Oui, moi. Je voulais dire une chose, c'est que le droit, c'est aussi les politiques publiques. Et que, en fait, ce qui est très intéressant, moi, j'avais travaillé avec deux collectivités locales, une municipalité et un département, pour est-ce qu'ils voulaient se mettre ensemble pour associer l'écologie et le social. Et en fait, ça n'a pas très bien fonctionné parce que les dispositifs sociaux, les politiques publiques sociales, sont construites autour de dispositifs pour les personnes, tandis que les politiques écologiques sont pas du tout conçues pour les personnes. Et donc, ça matchait pas, en fait. Et donc, il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on réintroduit dans les politiques publiques écologiques les personnes. Première chose, premier constat. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en revanche, sur le plan du travail des chercheurs sur les questions plus économiques, on a progressé sur les liens entre inégalités sociales et inégalités environnementales ou écologiques. Il y a une discussion sur environnementale et écologique qui se recoupe pas complètement. Mais on voit bien que souvent, elles se conjuguent. On le sait autour du mal logement, on le sait autour de la mauvaise alimentation, on le sait autour de l'accès à la nature. Il y a des enjeux de santé publique très importants. Donc, voilà ce qu'on peut dire. On a progressé sur le diagnostic, on n'a pas progressé sur l'appariement des outils. Et troisième chose, en revanche, si on regarde un petit peu comment ça se passe sur le plan de ce qu'on pourrait appeler l'empowerment, si on regarde les États-Unis, si on regarde même ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, autour par exemple de ces organisations de toxic tours, moi j'ai une amie qui fait des toxic tours en Seine-Saint-Denis, inspirée de ce qui se passe aux États-Unis, c'est une manière de faire ressaisir par les habitants, au fond, l'ampleur des pollutions, l'ampleur des... Dire voilà, les grandes villes ont toujours envoyé vers leur périphérie les nuisances, etc. Donc s'apercevoir de ça, porter la révolte et la porter autour du droit, autour du procès, comme disait Katia, autour de la possibilité, pas seulement lancer l'alerte, attaquer, c'est important. Et donc il y a aussi, là pour le coup, le droit peut jouer, peut défendre le faible, mais ça signifie que les habitants de ces quartiers doivent être aidés par ceux qui ne sont pas dans ces quartiers. C'est-à-dire que ils doivent être aidés. Par des associations, par des scientifiques, par des juristes, par des maires, des élus bien intentionnés ou en tout cas décidés à changer le monde. Voilà, donc il y a quelque chose autour aussi de la mobilité sociale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas être enfermé dans le quartier. Pour moi, le droit fait partie de la panoplie des outils, mais je pense que le sujet d'articuler les politiques sociales, politiques publiques sociales et les politiques écologiques est un immense sujet auquel personne ne s'est vraiment attelé, ni dans les collectivités locales, ni au niveau de l'État.
Bonsoir, j'ai une question de fonctionnaire. Qui est que, enfin, on a entendu du coup ce soir que aujourd'hui il n'y avait peut-être pas de stratégie de transformation de l'État, que c'était plutôt dans les stratégies interstitielles ou de rupture, qu'il y a une défiance envers les institutions, que ça vient plutôt, les transformations viennent plutôt de la société. Et donc ma question comme fonctionnaire qui aimerait quand même participer vaguement à faire quelque chose, c'est qu'est-ce que l'État, on est potentiellement appelé à faire ? Est-ce qu'on est plutôt appelé dans une posture d'accompagnement peut-être ? De la transformation.
Il me semble qu'il y a quand même de la part des fonctionnaires aussi des efforts pour essayer de, je sais pas si c'est dire, de subvertir de l'intérieur les logiques dominantes, mais je pense au réseau Le Lierre, par exemple, qui est un réseau de fonctionnaires qui a été créé là il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans, à l'initiative de jeunes hauts fonctionnaires très désireux de contribuer à faire bouger les choses, et en se disant un peu comme, je crois, ce qu'on appelle le corporate hacking, je regarde Xavier, en entreprise, c'est-à-dire cette idée de trouver des alliés dans les ministères, voilà, dans les collectivités territoriales, et que les personnes qui sont porteurs de même conviction qu'il s'agit de changer les choses puissent se connaître, se repérer, pour pouvoir, c'est pas association de malfaiteurs, mais c'est justement association de bienfaiteurs. Voilà. Je donne cet exemple-là parce que c'est aussi toujours cette question, normes et relations. C'est que finalement, on revient quand même au fait que pour changer le droit, pour changer les normes, derrière, ce sont des relations qui sont là, qui sont présentes. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, y compris d'ailleurs dans notre aventure d'écriture du livre, c'est que la qualité relationnelle, même entre nous, la confiance, le fait de pouvoir se bousculer un peu de temps en temps sur les échéances, etc. Enfin, c'est-à-dire, ce qui fait avancer des projets, c'est qu'il y a des gens qui sont contents de travailler ensemble, qui sont mus par le désir de faire bouger, et qui se disent « c'est possible, et par contre, tout seul, je peux pas y arriver ». Et donc, cette idée de créer des alliances à l'intérieur des structures de l'État, dans différents types d'institutions, et puis peut-être de faire jouer justement la complémentarité entre ces stratégies. Là encore, je reprends parce qu'on nous demande souvent au campus, et parfois on nous reproche, on nous dit « mais finalement, puisque vous voulez transformer l'enseignement supérieur, vous êtes réformiste ». Et nous, on essaye de dire, nous, on estime qu'on a aussi une stratégie, finalement, qui est à la fois en rupture à certains égards. Quand on est, quand on vit l'hiver dans un château peu chauffé, on peut dire qu'il y a une certaine forme de rupture. On peut dire aux interstices, essayer justement d'utiliser toutes les ressources possibles, des niches dans lesquelles on peut proposer des formations, des pédagogies, qui viennent ensuite permettre à certains de transformer les choses à une autre échelle. Et finalement, et tout le monde ne peut pas jouer le même rôle au même moment. Et donc, ce qui est très frappant aussi, peut-être que Lucille, tu pourrais rebondir là-dessus, c'est la capacité qu'ont les milieux écolos à se taper dessus pour se dire qu'il y a les purs, les moins purs, les assez radicaux, trop, voilà. Et qu'en fait, la réflexion stratégique entre les uns et les autres pour savoir comment associer les efforts et la ruse nécessaire au sens peut-être de la métisse grecque, là, se dire comment est-ce que on réfléchit collectivement à la complémentarité entre justement cette action de l'intérieur par celui, et moi j'ai des exemples dans lesquels quand j'étais thésarde, j'avais des amis qui me donnaient des infos sur ce qui vivait dans leur grand groupe, et en me disant tu ne me cites pas mais je te donne des infos y compris très techniques et très confidentielles, tu vas pouvoir alors en anonymisant quand c'était très confidentiel, mais faire droit à justement sur les questions de fiscalité, de comptabilité, etc. À l'époque, il y a 20 ans, c'était pas autant au devant de la scène qu'aujourd'hui. Et moi, j'ai réussi à publier des choses et à pouvoir faire en sorte qu'elles soient relayées dans des discussions dans l'espace public, parce que des personnes qui étaient dans l'enceinte de grandes entreprises, et ça pourrait être la même chose dans des institutions publiques, choisissent des stratégies qui leur permettent de jouer un rôle avec, pour eux, une réflexion informée de l'intérieur sur les contraintes du système. Et donc, je crois que ce qui pourrait être intéressant, c'est la réflexion collective sur la complémentarité, justement, de ces postures et de ces stratégies. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ce que disait Olin Wright sur lui, il était plutôt sur la question de la lutte anticapitaliste. Alors, ça recoupe quand même assez largement aussi la question des combats socio-écologiques. Mais voilà, je pense que c'est une interpellation pour nous et pour essayer de trouver ces alliances qui peuvent être peut-être des alliances aussi qui prennent en compte le... Alors ça, je pense que dans le cadre du DU, vous en parlez beaucoup, le rôle de collectivité territoriale. Je pense aussi à la fabrique des transitions, à la manière dont des maires de communes qui ont pu faire des choses à une échelle très locale se disent, mais finalement, l'expérience que j'ai eu, alors que ce soit Lausanne-Goël, Grande-Synthe ou d'autres, se disent, ça, peut-être que je peux transmettre quelque chose de l'apprentissage collectif à un endroit donné et qui peut être transposé dans un autre contexte sans, peut-être en faisant le récit, justement, ils travaillent aussi beaucoup sur la mise en récit pour pouvoir embarquer d'autres collectivités. Mais peut-être tu veux rajouter des choses.
Oui, moi je pense que l'exemple que donne Cécile Dullière est intéressant parce que c'est un collectif qui s'est créé il y a quelques années. Bon, moi je connais bien les fondateurs. Ce qui est intéressant, c'est d'exister tout en étant fonctionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment d'être fonctionnaire de l'État et des collectivités locales. Au fond, de montrer qu'il y a un collectif de l'action publique. Donc je pense que ce qui est essentiel, c'est que c'est l'action publique. C'est pas l'État d'un côté, les collectivités locales de l'autre. Et donc, ce collectif, il est important parce qu'en plus, il structure quelque chose vis-à-vis de la hiérarchie classique. Le problème, au fond, de tout fonctionnaire, c'est que moi, j'ai eu ces discussions au sein du LIER. J'ai dit, bon, bah, vous pouvez devenir lanceur d'alerte. Personne n'a forcément envie de devenir lanceur d'alerte quand il a 30 ans, de renoncer à, au fond, à ses pairs, à ce trajet qu'il a envie de faire, etc. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser, entre guillemets, l'arme nucléaire tout de suite. Mais l'idée de créer une espèce de culture générale au sein de l'action publique, c'est un point qui reste ouvert. Et notamment, par exemple, quand on discute avec les responsables du secrétaire général à la planification écologique, ils disent, nous, notre premier objectif, c'est de créer cette culture générale interministériel sur l'écologie qui n'existe pas aujourd'hui au sein de l'État. De la même manière, lorsqu'il y a cette formation des dirigeants de l'État, cette formation à l'écologie qui est menée, on peut dire qu'elle n'est pas assez ceci, cela, mais en tout cas, c'est l'idée de créer cette culture générale de l'écologie et donc de désenclaver l'action du ministère de l'écologie, qui est très important, et au fond, avoir créé le SGPE auprès d'Elisabeth Borne, c'est bien. Après, il y a ce premier niveau de culture générale, mais le sujet, c'est quand même qu'aujourd'hui, par rapport aux ambitions de l'accord de Paris, on est très en deçà, c'est pour ça que l'État est condamné. Donc il y a évidemment cette question de tout simplement de remplir les engagements qui sont pris, et comment est-ce qu'on décline, c'est ce qu'avaient écrit Amy Dahan et Stéphane Écoute dans « Gouverner le climat », au fond ils disaient bien il faudra ensuite décliner ça au niveau de, à l'échelle nationale, de manière très précise dans les politiques publiques, et pour l'instant on peut dire que l'exercice de déclinaison n'est pas totalement convaincant, ou en tout cas il est très macro. Et ça c'est pour ça qu'il faut aller sur l'action publique, c'est-à-dire qu'il faut associer l'État, les territoires, territorialiser cette action publique, mais évidemment le problème en politique c'est que ce sont des familles politiques qui sont opposées, qui peuvent pas se blairer, etc. Donc toute la question, alors on a toujours le truc genre mais il faudrait que ce soit consensuel l'écologie, pas du tout, l'écologie n'est pas consensuelle, je crois qu'on est aussi placé aujourd'hui dans cette situation où on sait que c'est le moment où justement elle devient de moins en moins consensuelle. Donc vous avez beaucoup de choses à faire et vous devez pas vous interdire parfois des petits écarts par rapport à votre devoir de réserve. Parce que, au fond, il faut que vous vous disiez qu'il faut que vous choisissiez entre votre carrière classique et votre amour de l'écologie. Mais pas tout de suite lanceuse d'alerte.
D'autres questions ?
Un petit manuel de comment des dégradations.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui.
Oui, je vous remercie pour cette conférence intéressante. Alors, je ne suis pas du tout de formation juridique, donc enfin la question de la personnalité juridique de la nature m'intéresse effectivement beaucoup. Mais concrètement, finalement, j'imagine que dans ce cas-là, pour définir une personnalité de cette nature, il faut lui donner des droits, lui définir des droits. Et finalement, qui définit ces droits ? Enfin, qui connaît les intérêts finalement de la Loire ou de la Garonne ou du Rhône, sinon encore des êtres humains qui vont défendre un point de vue par rapport au point de vue d'autres êtres humains. Donc, concrètement, je ne vois. Enfin, bon, on voit évidemment l'intérêt que ça porte pour quand il y a des accidents, des agressions majeures de la nature, des graves pollutions, etc. Mais au quotidien, enfin, pour gérer le Rhône, par exemple, ou les abords de la Garonne. Comment fait-on finalement pour... C'est encore un point de vue d'être humain vis-à-vis d'autres êtres humains, quoi.
Alors, effectivement, c'est une vraie question, c'est une grande question quand on parle d'accorder des droits aux entités naturelles. Je pense qu'on a... qui parle au nom de la nature ? Mais un droit, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on a aussi d'autres entités sous tutelle pour qui on parle. Par exemple, les mineurs ou d'autres catégories de personnes. Donc, juste techniquement, ce n'est pas vraiment un problème. Après, je pense qu'on a quand même, on peut penser à des indices scientifiques. Qui viendrait, donc la science, qui viendrait à dire que cette entité a besoin de ça ou de ça, etc., et qui pourrait potentiellement traduire aussi la voix de cette entité naturelle. Et en plus, et là je pense que c'est peut-être aussi l'intérêt, c'est comment l'être humain
en relation avec cette entité naturelle, arrive aussi à potentiellement l'écouter et traduire d'une certaine manière sa voix. Et là, on a des expériences, même l'Amazonie colombienne, mais aussi un fleuve en Nouvelle-Zélande, qui est géré par la communauté autochtone des Maoris. Et qui, voilà, donc c'est cette communauté autochtone qui a une relation très proche, très étroite avec ces fleuves, qui le représente finalement dans les autres instances de la société. On pourrait aussi dire, bien évidemment, bon, mais finalement, ce sont les intérêts des Maoris qu'ils défendent par le biais de la protection des droits du fleuve. Mais là, c'est là encore, je pense qu'on peut élargir et penser qu'on est dans un rapport interdépendant avec cette entité naturelle et que ce serait tout à fait aussi possible de la représenter. Voilà, quelques éléments enfin quelques pistes de réflexion, mais je pense que ce sont véritablement des questions qui se posent et qui nous interrogent beaucoup. Mais peut-être, Cécile, tu voulais qu'on... Enfin...
Tu voulais... Non, ce qui me venait aussi, c'est le lien avec la question éthique derrière et la conception que l'on a, finalement, des devoirs humains, y compris des devoirs de justice à l'égard d'autres êtres vivants, pas seulement des êtres humains. Ce qui est quand même quelque chose de plutôt nouveau, qui n'est pas évident, et qui peut donner lieu à des discussions. Alors ensuite, si on entre dans un cadre un peu plus technique, mais dont on a fait état assez brièvement dans le cadre de la première partie de l'ouvrage, ces éthiques dites anthropo, patho, éco, bio-centrées, mais qui sont des manières de s'interroger sur la qualité des relations que nous humains entretenons avec les autres qu'humains. Et puis, on peut avoir beaucoup de débats. Alors, c'est sûr que dans le domaine de la réflexion sur l'entreprise, par exemple, je me rappelle avoir été invitée à parler dans le cadre d'un colloque il y a 2 ans, organisé sur nos sœurs, les plantes. Et alors, c'était très drôle parce qu'il y avait un juriste. Moi-même, j'étais supposée parler de l'entreprise vis-à-vis de nos sœurs, les plantes. Et là, et je me disais, en fait, là, on est dans un registre qui est tellement différent qu'au fond, peut-être qu'il faut faire ce que propose le philosophe Norton, qui dit finalement, nous n'allons pas réussir à nous accorder sur nos conceptions substantielles du point de vue éthique, mais peut-être nous pouvons au moins être d'accord sur une forme de ce qu'il appelle d'anthropocentrisme faible, de façon à respecter une qualité du lien de l'humain à la nature et au vivant, qui ne va pas aussi loin qu'une éthique bio ou éco-centrée, mais qui est déjà une volonté de ne pas nuire en termes de principes éthiques et qui se traduit aussi dans le droit. Donc voilà, je crois qu'il y a un champ énorme aussi pour se dire, on est tellement loin du compte dans tellement de domaines liés à nos modèles économiques extractivistes que du coup, voilà, entre la personnalité juridique donnée à des entités naturelles d'un côté et puis ce qu'on peut faire déjà pour essayer d'éviter de polluer la rivière et de créer des maladies pour les personnes les plus vulnérables. Voilà, il y a toute une... Je pense qu'il y a une palette de choix politiques et juridiques possibles aussi.
Oui, bonsoir. Merci pour toutes ces précisions. Vous avez bien détaillé le grand manuel de la transition que vous avez rédigé donc à plusieurs, pendant apparemment plusieurs mois, plusieurs années, et il a été finalisé maintenant il y a déjà quelques temps. Est-ce que vous avez des newsletters régulières qui donnent un petit peu d'optimisme par rapport à ce qui peut se passer dans le monde ou en France, par rapport aux avancées qu'il peut y avoir ? Parce que si on regarde les informations, on a plutôt des vents un peu pessimiste sur le retard qu'on a par rapport aux accords de Paris, sur la prochaine réunion à Dubaï. on ne peut pas dire que ça donne énormément d'optimisme.
Oui, merci pour cette question. Alors, en fait, il se trouve que c'est une question qu'on s'est posée il y a pas longtemps du tout, parce qu'il va y avoir la version poche de du manuel qui nous demande de l'actualiser, et donc qui dit version poche dit avant-propos, et on s'est posé la question, au fond, de faire une sorte de bilan depuis la publication du manuel, de au fond ce qu'il s'était passé dans le monde de façon générale, et puis un peu plus précisément dans le monde de la formation et de la transformation de l'enseignement supérieur du point de vue de la formation à la transition environnementale. Et en fait, quand on a regardé plutôt du côté de ce qui se passait dans le monde et des transformations de la société, on n'a pas trouvé tant que ça de choses très très optimistes. La partie plus positive de l'avant-propos, elle concerne ce qui se passe quand même dans les transformations des formations, où un certain nombre d'établissements bougent, créent des formations qui sont assez intéressantes. Maintenant, le problème, on y revient, on l'a évoqué, c'est la question du temps. D'où le fait de former aussi les professionnels et pas simplement compter sur les étudiants des générations prochaines. Mais de ce point de vue-là, sur le plan de la formation, il y a quand même des choses qui bougent. Tu l'as évoqué à demi-mot, mais de façon générale, la formation des fonctionnaires aussi, qui est en train d'être déployée, avec certaines limites, mais un intérêt non négligeable du point de vue de cet effort de formation.
Après, sur les newsletters en tant que telles, on n'en a pas vraiment, en tout cas pas pour la dynamique FORTES en tant que telle. FORTES est l'acronyme de formation à la transition dans l'enseignement supérieur, qui était le titre du collectif qui a rédigé et collaboré à la rédaction du manuel, du grand manuel, comme on dit, et puis des petits manuels. En revanche, je peux faire un peu de pub pour les newsletters du campus. Et, oui, Elaïne. Okay. Et grâce à Elaïne et à ça, notamment Audrey, co-autrice, qui s'occupe de la communication au campus, on a des formidables newsletters, et je pense qu'ils donnent un peu qui mettent un peu de baume au cœur sur la capacité aussi à s'engager de différentes manières et à se dire que voilà, ensemble, on est plus fort et on peut aller plus loin, et qu'on a aussi besoin de regarder toutes ces initiatives qui fleurissent un peu partout, et de se dire c'est aussi ça dont est porteuse notre société, et qu'on peut voir en ce moment beaucoup de choses extrêmement préoccupantes. Mais c'est aussi cette espérance qui peut nous animer dans la capacité de mobilisation de personnes de tous horizons, et de voir aussi, tout à l'heure tu mentionnais quand même des événements, là par exemple ce traité à l'ONU, on n'y croyait plus, et puis finalement il y a quand même des choses qui ont l'air de bouger un petit peu, se dire finalement parfois il y a des gens dont on a l'impression qu'ils vont jamais bouger. Et un autre exemple que j'ai en tête, c'est des discussions avec des personnes de grandes entreprises, et dont les sherpas de boîtes du CAC 40 qui militent auprès de leurs patrons pour qu'on parle de décroissance nécessaire des volumes de production et de consommation. Je pense qu'il y a encore quelques années, alors c'est pas sûr que les patrons de ces boîtes s'expriment de cette façon-là, mais que maintenant ce discours-là soit repris par un certain nombre de cadres et de cadres dirigeants dans les entreprises, c'était inaudible il y a encore quelques années. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi regarder tout ça pour se dire, ces combats, c'est aussi la guerre des mots qu'on utilise, et se dire derrière, c'est des représentations collectives de ce qui va nous permettre d'avoir des modèles d'affaires différents. Et donc là, quand même, pardon. Eh ben ça, il faudrait qu'on l'en mette plus dans les newsletters. Mais oui, il y a des choses comme ça dans les newsletters. Oui, oui. Oui, voilà. Il y a encore une question? Oui.
Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. J'ai entendu parler. Alors j'ai pris la soirée un petit peu en cours de route. On arrive un tout petit peu plus tard, mais j'ai beaucoup entendu parler de narratif dans la personnification de la nature, de besoin d'imaginaire. croisée avec les faits relatés par rapport à l'Amazonie, ça m'a fait penser à un film de Miyazaki où un fleuve vient au bain public pour être nettoyé. Donc il y avait déjà cette idée de personnification dans la création culturelle. Et je me disais peut-être en vous écoutant que on ne sait pas quoi faire de l'IA et de ChatGPT. On fait parler des IA avec ChatGPT. Pourquoi pas nourrir une base de données avec ce qu'on pourrait savoir sur un fleuve, son histoire, sa cosmologie, et le faire parler finalement. Est-ce que le langage pourrait pas être un support de la reconnaissance, peut-être. Voilà, c'est une petite parenthèse, une petite question. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup.
C'était bien en fait, hein, c'est ça. Ouais, merci Marcel. Avec des amis romanciers, on a créé il y a 6 ans un prix du roman d'écologie et donc moi je crois pas tellement que c'est ChatGPT qui va. Enfin bon, moi je suis un peu réac là-dessus, mais bon. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que quand on a créé ce prix romanesque sur la littérature francophone, on s'est heurté à un vrai scepticisme sur le fait qu'il y avait pas de roman d'écologie, c'est sûr en France, que c'était du nature writing, que ça existait aux États-Unis, au Canada, bon. Et en fait, Dès 2018, le moment où on a remis le premier prix, on a trouvé de magnifiques romans qui traitaient de questions d'écologie, mais sans que ce soit qualifié de tel. Par exemple, un roman d'Emmanuel Pagano qui a écrit 3 romans, en fait, qui s'appelle Trilogie des Rives, sur la question de l'eau. Et le roman qui a eu le prix, et c'est le premier prix, s'appelle Sauf Riverain. Il raconte en fait la façon dont la politique hydraulique des années 50 ennoie la mémoire des vignerons en créant le lac Salagou. Et en fait, elle retrouve la mémoire de sa famille à travers la mémoire aussi de la terre, du territoire dans lequel elle se trouve. Chaque année, on a comme ça sélectionné 6 romans dits d'écologie. Mais en discutant avec les romanciers, on s'est aperçu par exemple, Emmanuel Pagano nous a dit « mais j'ai pas écrit un roman d'écologie, j'ai écrit un roman du paysage ». Donc au fond, on voit bien par rapport à ce que vous dites que cette façon dont il faut petit à petit que les mots que nous avions l'habitude d'utiliser soient des mots que nous remplissions d'un nouveau contenu ou dans lequel on n'ait pas peur d'utiliser le terme d'écologie. Elle en avait peur parce qu'elle disait qu'elle avait eu une discussion avec je sais pas quel professeur de sciences qui lui avait dit « mais vous comprenez rien à l'écologie ». Et en fait, c'est intéressant de voir que petit à petit s'élabore cette culture générale de l'écologie qui peut être donc une culture littéraire, etc. Cette année, moi je dis en riant que le fait que Gaspard Koenig, pour un roman sur les vers de terre, ait failli avoir le Goncourt, je pense que... Et par ailleurs, Gaspard Koenig n'était pas un romancier, c'était quelqu'un qui était engagé sur le libéralisme, etc. Mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'aspiration romanesque, le vers de terre a pris toute sa place, et c'est très important. C'est la question des sols, c'est devenu aussi un sujet politique très important avec le zéro artificialisation net. Donc on est... ChatGPT est très puissant, mais nous, on est aussi en train déjà d'irriguer notre imaginaire avec des êtres non humains, et c'est pas l'ours blanc en fait, c'est des êtres auxquels on n'aurait pas pensé il y a quelques années.
Oui, merci beaucoup. Oui. J'avais une question sur le problème de la dépendance à la voiture, des questions sociales, des gilets jaunes, par exemple dans les zones à faible émission. Ça entraîne beaucoup d'inégalités puisque ça pénalise les gens qui n'ont pas de revenus, qui ont besoin de leur voiture puisqu'ils habitent loin à cause du prix des logements. Il n'y a pas beaucoup de propositions. Il y a des propositions de les accompagner financièrement, mais on aurait peut-être besoin d'un récit pour faire sortir tout le monde de la dépendance à la voiture. Et je ne sais pas ce qu'on peut imaginer par rapport à ça. Il y a toute la question de l'urbanisme aussi, bien sûr.
Rémi me souffle de parler du projet sur les mobilités au campus. Alors en plus, on a Rémi qui avait fait justement son stage sur ces sujets-là. On avait un financement de la Fondation Michelin pour réfléchir avec notre communauté de communes, la communauté de communes du Pays de Montreux, sur les enjeux des mobilités douces sur un territoire qui est un de ceux dans lequel est né le mouvement des Gilets jaunes, qui est le sud de la Seine-et-Marne. Voilà. Et pour prendre l'exemple très concret du campus, pour aller de la gare de Montreux au château de Forges, il y a 7 kilomètres, il y a une bonne montée, et on n'a toujours pas de piste cyclable. Alors, notre maire nous la promet pour cette année, mais c'est dire quelque chose, alors, de la capacité déjà à promouvoir ces formes de mobilité douce, donc se dire... à pied quand on peut, à vélo. On a des chevaux dans le domaine de forge, mais c'est déjà plus compliqué. Après, c'est certain qu'il y a un certain nombre de personnes plus âgées. Bah, c'est un peu mon cas quand le matin, je pars pour, comme ce matin de forge pour aller à Paris. Bah, il y a un bus. Pour l'instant, il y a encore un bus. Mais quand il arrive, c'est un bus de 50 places, on est deux à le prendre à Forges, et quand on arrive à Montereau, donc 5 kilomètres plus, enfin disons déjà 3 kilomètres la ville haute, et puis bon, il y a peut-être à la fin 12 personnes, donc on se dit combien de temps ça va durer. Alors il y a un système de transport à la demande qui est mis en place, je pense de plus en plus de communautés de communes mettent ça en place, donc c'est un peu entre le bus et le taxi. Donc ça, c'est quand même des innovations, parce que quand j'entends, moi, des sœurs, puisque avant le domaine avait été occupé par une communauté religieuse pendant des années, moi, les sœurs me disaient, mais en fait, nous, on était celles qui n'avaient pas le permis de conduire, complètement isolées, parce que il n'y avait pas tous ces moyens-là. Donc ça veut quand même dire qu'il y a eu des efforts dans ces zones semi-rurales pour essayer de trouver des moyens de transport pour faciliter l'accès. Et je pense que pour répondre à votre question sur les imaginaires liés à la mobilité, ça c'est une des choses aussi que je dis beaucoup chez Michelin, où je fais partie du comité des parties prenantes, on a des discussions sur le droit à la mobilité, en se disant au fond, est-ce qu'il faut continuer à parler du droit à la mobilité? Au sens de ce droit tous azimuts, qui fait qu'en fait c'est toujours les mêmes qui sont les plus connectés, qui peuvent justement se déplacer très facilement, alors que d'autres, à travers la planète entière, subissent les effets négatifs d'un transport qui est absolument qui n'est pas extensible à l'ensemble de la population de la planète, et qui fait que les 10% les plus riches en Amérique du Nord ont une empreinte carbone de 73 tonnes par habitant et par an. Et c'est beaucoup lié à la question des moyens de transport utilisés. Et donc, réfléchir, avoir justement un imaginaire, un narratif qui parle peut-être moins de mobilité ou de droit à la mobilité, mais de droit d'accès à des biens, des services de base, c'est aussi peut-être une manière de relier la question à la question sociale, de se dire quels sont ceux qui n'ont pas accès, et de favoriser en termes de politique publique un meilleur accès pour les populations les plus isolées, et réfléchir, et puis taxer à mort les SUV, etc. Enfin, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de dispositifs qui pourraient être adoptés pour adopter des meilleures pratiques collectives.
Est-ce que on arrive peut-être au bout?
Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir et pour vos questions et les échanges que nous avons eus ensemble, très riches. J'espère qu'ils ont pu vous permettre d'avancer dans la réflexion. Et puis je crois qu'on peut remercier très chaleureusement chacun de nos intervenants ce soir.
Très grand merci à toi, Clarisse, qui, dès qu'on a évoqué la possibilité de cette soirée, était enthousiaste. Et merci à l'équipe et à vous tous. Et puis donc, il y a un petit stand qui permet de vendre les productions du campus. Donc, n'hésitez pas à vous jeter sur les petits manuels, la société écologique. Et puis, il y a d'autres petits manuels et je crois quelques exemplaires du manuel de la grande transition qui sont aussi proposés à la vente. Voilà. Et merci donc à tous et toutes. Merci, Cécile.